Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Frédéric Michaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway. Alors, le gouvernement veut tourner la page de la réforme des retraites. Aujourd'hui, ont été publiés au journal officiel deux premiers décrets d'application de la loi promulgués mi-avril, dont le plus important, celui portant progressivement l'âge légal de 62 à 64 ans. Le calendrier ne doit rien au hasard, puisque mardi, les syndicats appellent à une 14e journée de mobilisation, et ce, de jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi du groupe Liotte visant à abroger la réforme. Alors du reste, le texte a été vidé de sa substance mercredi dernier avec la suppression en commission des affaires sociales de l'article clé portant sur la mesure d'âge. Et si des amendements ont été déposés pour rétablir cet article, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a prévenu qu'elle invoquerait l'article 40 de la Constitution pour les déclarer irrecevables. Ça peut paraître compliqué, mais il faut le poser, sinon on comprend pas. Si c'est le cas, ce sera un pur scandale démocratique, déclare la secrétaire générale de la CGT. Invitée de BFM TV, Sophie Binet vise aussi les décrets d'application sans lesquels la loi n'est pas applicable.
C'est totalement irresponsable de prétendre l'appliquer au 1er septembre puisque il y a encore 29 décrets qui ne sont pas parus et donc les agents dans les caisses ne peuvent pas préparer les choses et les assurés n'ont aucune visibilité pour leurs droits, leur future retraite. Donc c'est scandaleux de vouloir appliquer cette réforme à marche forcée. Si nous pouvons les attaquer, nous les attaquerons. Donc il y a une incertitude juridique et une incertitude matérielle, sachant que dans les caisses, les agents travaillent à marche forcée. Il y a eu beaucoup de recrutements de contractuels, donc ce qui veut dire aussi que les choses ne se font pas dans des conditions satisfaisantes et que les constitutions de carrière pour les assurés concernés ne se font pas de façon satisfaisante, ce qui est grave parce que derrière, il y a des situations individuelles avec des calculs qui ne seront pas bien faits.
Sophie Binet qui appelle aussi solennellement Yaël Braun-Pivet à laisser les députés voter ce texte. Le coordinateur de la France Insoumise en a appelle aussi à la présidente de l'Assemblée, Manuel Bompard sur Europe 1 ce matin.
Quand un texte de loi a été jugé recevable, et c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui l'a jugé recevable, comment remettre le texte de loi en l'état serait irrecevable alors que le texte lui-même initial était recevable. Il faut qu'il y ait un vote jeudi. Présent, et si la présidente de l'Assemblée nationale ne veut pas permettre qu'il y ait un vote jeudi, elle va prendre une très lourde responsabilité. Moi, j'appelle les personnes qui nous écoutent à se mobiliser. Je continuerai à me battre. Aux prochaines élections, on défendra l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans. Cette bataille, elle continuera tout le temps. Elle s'arrêtera jamais.
À l'autre bout de l'échiquier politique, Marine Le Pen dit à peu près la même chose. La présidente du groupe des députés RN était l'invitée de France 3.
Tout est fait par le gouvernement pour que l'Assemblée nationale ne puisse pas se prononcer. Je pense que ça révèle un effondrement de la culture démocratique.
Qu'est-ce que vous demandez à Yaël Braun-Pivet, clairement ?
Je lui demande de laisser l'Assemblée nationale voter, parce que nous sommes les représentants du peuple français. Et on a le sentiment que la Macronie a peur du vote, parce qu'en réalité, la Macronie a peur du peuple. Or, nous n'arrivons pas à voter. La première fois, il y a eu un 49-3. Aujourd'hui, on rend irrecevable un article qui est le cœur du texte. C'est un coup de force, évidemment. Ce qui se passera, c'est qu'il faudra probablement attendre 2027 pour qu'il y ait une élection présidentielle, des élections législatives et que les Français sanctionnent non seulement le fond de cette déconstruction de notre système de protection sociale, mais également ceux qui évidemment portent cette déconstruction.
Le vote, c'est jeudi. Avant cela, après-demain, quelques 250 actions sont prévues en France. Elles pourraient réunir entre 400 à 600 000 personnes, selon les autorités. C'est-à-dire beaucoup moins que précédemment. Alors, Frédéric Michaud, d'Opinionway, faut-il voir du fatalisme et du renoncement de la part des Français ?
Alors, quand nous interrogeons les Français, comme nous le faisons depuis le début de cette séquence consacrée à la réforme des retraites, il est assez frappant de constater que les indicateurs d'opinion varient très très peu, quelles que soient les différentes étapes législatives. Et ces indicateurs nous disent d'abord que 2/3 des Français sont opposés à cette réforme. Elles le sont toujours, y compris après la promulgation de la loi et la prise des décrets que vous avez évoqués. Une réforme qui semble toujours injuste dans son principe et inefficace dans ses effets. Le sentiment aussi, simultanément, que cette loi finira par s'appliquer. Et puis, un encouragement très très fort aux syndicats qui, pour 57% des Français, doivent poursuivre le mouvement réformant les retraites. L'idée qu'il faudrait stopper ce mouvement, l'idée que maintenant il faut tourner la page, n'est absolument pas partagée par une majorité de Français.
Donc 14e journée de mobilisation ce mardi, est-ce que ce sera la dernière avant de passer à autre chose, un baroud d'honneur en faisant pression sur le gouvernement pour obtenir des avancées sociales sur d'autres sujets?
Alors c'est les développements au Parlement qu'ils le diront jeudi. On voit bien qu'il peut toujours y avoir des coups de théâtre dans les arcanes très complexes du Palais Bourbon. L'enjeu là pour les syndicats, pour la journée de mardi, c'est comme toujours d'avoir la plus forte mobilisation pour peser le plus possible sur le vote et sur les politiques. L'enjeu, il est aussi pour eux de revenir au devant de la scène médiatico-politique. La question des retraites a été le sujet central du début de l'année, et depuis un mois et demi, c'est un sujet qui est progressivement relégué au second plan. Ça n'aide pas la mobilisation, et l'enjeu pour les syndicats, c'est aussi de retrouver de la visibilité médiatique.
Oui, cela dit, alors c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et à moitié vide, ils n'ont pas obtenu pour l'instant l'arrêt de la réforme. À moitié plein, c'est que durant 6 mois, l'intersyndicale est restée mobilisée et a été soudée.
Oui, absolument. D'ailleurs, les syndicats comme le Rassemblement national sont les deux acteurs qui sont identifiés par les Français comme les vainqueurs de cette séquence de la réforme des retraites. Et objectivement, pour les syndicats, nous voyons qu'ils ont, à la faveur de l'union de cet intersyndical et puis de leur action d'une manière plus générale, redoré leur blason. Si on se replace quelques années en arrière, lors de la précédente grande crise sociale, la crise des Gilets jaunes, vous vous souvenez que les syndicats étaient complètement hors-jeu. Ils étaient vus comme une institution, ils étaient délégitimés de ce fait. Là, les syndicats étaient au cœur de cette crise, qui est une crise très classique dans son format. Les syndicats contre le gouvernement, ça leur a permis de prendre un nouveau relief sur la scène politique.
Frédéric Michaud d'Opinion Way, vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Avant-hier, le média Combini diffusait une vidéo dans laquelle 4 députés de gauche et de la majorité témoignent des menaces, des insultes dont elles font l'objet sur les réseaux et dans la rue. Voici un extrait de ce que disent Sandrine Rousseau, Marie Lebec, Mathilde Panot et Raquel Garrido.
Tu es tellement à l'image de la femme ou complètement débile, fais-toi violer.
On va te faire la peau et on va aussi massacrer ta raclure de bâtard.
Vidéo d'une femme jetée à terre, un peu grosse. Brune, quelqu'un en dessous va mettre « C'est Raquel Garrido ».« Sale grosse pute de salope, nique ton parti de merde ». En fait, c'est fou parce que j'ai pris l'habitude.
Les faits de violence physique ou verbale contre les élus ont augmenté au cours de ces derniers mois. Comment expliquer un tel phénomène, Frédéric Michaud ?
Il y a plusieurs éléments, évidemment. Tout cela est multifactoriel. C'est d'abord consternant pour la vie politique et démocratique française. Ça signe une perte de respectabilité des élus. Il y a une trentaine d'années, être élu, c'était avoir du prestige. Aujourd'hui, être élu, c'est être suspect, et éventuellement être une cible. Avec d'ailleurs des perceptions des élus, d'une manière générale dans l'opinion publique, qui sont extrêmement négatives. 69% des Français considèrent que les élus sont corrompus. 77% qu'ils sont déconnectés des réalités et suivent uniquement leurs propres intérêts, et 82% qu'ils ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens. Donc voilà, il y a cette défiance générale à l'égard des élus qui se combine aussi avec l'idée que les formes classiques d'expression politique, c'est-à-dire au premier chef, le vote, mais aussi la manifestation, la grève, ne sont plus efficaces, ne parviennent plus, pour les Français, à transmettre des messages et à agir sur la réalité. On le voit bien d'ailleurs avec la séquence des retraites. Et cette frustration, cette colère, elle peut ouvrir la voie à la tentation de peser par des moyens qui ne sont pas traditionnels et qui relèvent d'une forme de violence physique ou verbale.
Justement, intéressons-nous au cas du maire du village de Montjoly. Montjoie, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Il est actuellement sous protection policière à la suite de menaces de mort, survenue après la diffusion d'une vidéo d'un influenceur d'extrême droite le prenant pour cible. L'homme qui se fait appeler Papacito prend le parti d'un éleveur de porcs du village en litige avec son voisin, un Britannique, sur l'utilisation d'un chemin. Christian Hergal a 75 ans, il est maire sans étiquette de cette petite commune de 190 habitants. Il reçoit donc des menaces de mort par mail sur la messagerie téléphonique de la mairie et sur les réseaux sociaux. Il l'a raconté sur RTL.
40 minutes avec une mise en scène, avec images de façon à pouvoir m'attraper, me tabasser, me violer et me finir. Voilà, c'est la vidéo. 15 km, 20 km tout autour de mon village était indiqué au sol avec pochoir mon nom, Christian Hergal Lafouine, avec les flèches pour indiquer mon domicile. Aujourd'hui, moi, je reçois des centaines de menaces de mort, de pendaison qu'on va venir me pendre. Alors, mon téléphone est passé sur écoute. La gendarmerie, sous protection, oui, parce que j'ai pas les gendarmes devant ma porte, mais ils circulent, ils passent toutes les heures devant mon domicile. Et même quand je marche dans la rue, je fais attention aujourd'hui. Ben, ma colère, elle est plutôt là.
Cette affaire intervient après le choc de la démission du maire de Saint-Brévin. Or, les élus des petites villes viennent de se réunir en congrès à Millau, dans l'Aveyron. Ils questionnent le sens de leur mission. Alors, des maires expliquent que l'habitant serait devenu une sorte de client, de consommateur, exigeant une obligation de résultat et non plus de moyens de la part d'un maire, qui serait donc un fournisseur de prestations et de solutions, Frédéric Michaud. C'est-à-dire que c'est plus comme avant.
Oui, là aussi, de ce point de vue-là, les choses ont changé et c'est très surprenant. Bon, historiquement, les élus au niveau national ont été ciblés. On a vu des figures médiatiques dont les effigies ont été brûlées encore récemment. Mais là, la vraie nouveauté, c'est que ça touche maintenant des élus locaux. Alors, le maire, jusqu'à présent, était épargné, parce que c'est l'élu, c'est le seul d'ailleurs, c'est
l'élu
préféré des Français. Hein, 57% des Français ont confiance dans leur maire, mais on voit bien que maintenant, ça ne suffit pas à les protéger, d'autant plus qu'ils sont vraiment en première ligne. Et qu'ils ne disposent pas des moyens de protection que peuvent avoir des députés ou des élus nationaux.
Et ça, c'est inquiétant pour la démocratie.
Oui, c'est extrêmement inquiétant. C'est ce retour de la violence en politique signe une vraie régression du débat démocratique et politique.
Merci pour ces analyses et commentaires, Frédéric Michaud, directeur général adjoint de l'Institut de sondage OpinionWay, invité de Dimanche Politique sur RFI.